son oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'être au rendez-vous. Ce soir, vous êtes les bienvenus à l'émission antimilitariste L'Union pacifiste, Civis Pacem. Para Pacem, si tu veux la paix, prépare la paix. L'autre version ancestrale, archaïque, elle est HS. Elle est obsolète, elle est hors service. Si tu veux la paix, prépare la paix. Donc, nous vous accueillons pendant une heure et demie dans notre émission antimilitariste. Vous pouvez nous appeler au studio au numéro 01 43 71 89 pendant les pauses musicales. Et nous avons un invité ce soir par téléphone qui a publié déjà plusieurs ouvrages. Oser la paix par Pierre-Olivier Poyard, que nous saluons chaleureusement, même si je n'ai pas encore entendu sa voix. Mais il a publié un autre ouvrage en 2022, Oser la paix, aussi remarquable, et qui, tous les deux ouvrages, sont faits pour notre émission. Civis Pacem, si tu veux la paix, prépare la paix. Parce que préparer la guerre, c'est une affaire pour faire son beurre. Ils nous font peur pour faire leur beurre. Or, quand l'argent gouverne, l'esprit est en berne. Et nous espérons vous donner envie, au cours de notre émission, envie de réfléchir par vous-même, de ne pas vous laisser berner par la propagande de guerre qui, comme vous vous en doutez, fait fureur en ce moment, vu la situation plutôt calamiteuse qui est hélas la nôtre et celle de la planète. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux dire à Olivier, bienvenue? Olivier, est-ce que vous êtes là? Bonjour.
Oui, je suis là, je t'écoute avec beaucoup d'attention.
Non, je ne vous entends pas. Mais Pedro me fait signe, Pedro est à la technique aujourd'hui et Suzanne est au micro. et nous accueillons Olivier Poyard, mais je ne l'entends pas encore.
Moi, je t'entends très bien.
Le casque.
Ouais, il faut mettre le casque, je pense.
Désolé, c'est un petit souci technique, on arrive.
Allô, Olivier ?
Oui, tu m'entends ?
Ah oui, je suis allée dans le studio maintenant, où officie l'opérateur du son, parce que dans le studio où sont les animateurs, je ne t'entendais pas. Bienvenue, bonjour Olivier !
Bonjour Suzanne, je suis très heureux de discuter avec toi ce soir.
Eh bien, moi aussi, et toute l'équipe, nous sommes très avides d'entendre tes lumières qui mettront de l'eau sur le moulin de la paix. La paix ne tombe pas du ciel comme une bombe. La paix, ce n'est pas la paix des cimetières, n'est-ce pas ?
Certainement pas, non.
Oui.
Tu as bien raison.
Alors, je ne sais pas si tu as entendu le début de l'émission, cher Pierre-Olivier, mais j'ai annoncé tes deux ouvrages, Oser la paix, paru en 2022, et puis tout récemment...
Écologie et paix.
Écologie et paix. Par lequel aimerais-tu commencer ? Qu'est-ce que tu as envie de dire en tout premier ?
Merci. Merci. Alors, je suis très content de participer à cette...
Eh bien, c'est partagé.
À cette émission. Ah, je suis d'une contrée froide, il fait très froid chez moi. Une contrée de l'Est de la France.
Ah ben, c'est la saison.
Et donc, il ne fait pas si froid que ça, j'exagère. Oui, je suis très heureux de participer à cette émission. Donc, c'est sur Radio Libertaire, c'est bien ça ?
Radio Libertaire 89.4. Et je viens d'annoncer aussi le numéro du studio où les auditeurs peuvent nous appeler pendant les plages musicales. Le numéro pour les auditeurs, c'est le 01 43 71 89.4. Le studio de Radio Libertaire et des antimilitaristes pour la paix. Avec toi ce soir, et peut-être pas la dernière, j'espère.
Alors oui, tu m'as demandé par rapport au bouquin, donc il y en a déjà eu un, donc en 2021 exactement. Ça s'appelait Oser la paix.
Oui.
Le sous-titre c'était Agir contre les guerres au peuple et à la nature, cultiver un monde de paix.
Oui.
Ça va, je suis dans le thème de l'émission.
Oui, et j'ai tes deux ouvrages sur ma table.
Sur ta table de chevet.
Pour ainsi dire, le studio est ma table de chevet depuis quelques jours parce que j'ai préparé évidemment notre émission qui est plus nécessaire que jamais. Les guerres, on n'en a rien à faire, mais les dirigeants, ils n'ont en tête que les sous, leur compte en banque.
Et... Alors oui, effectivement, c'est une des thématiques que je développe dans ce bouquin, Oser la paix. Si je veux en parler un petit peu, bon, il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste à peu près 80. On peut toujours les procurer sur le site du Mouvement de la Paix, sur la boutique de la paix, donc il y en a encore un peu. Les gens peuvent m'écrire directement, hein, et s'ils veulent qu'on prenne le thé ensemble, ce sera avec plaisir. Et donc, j'essaierai mes coordonnées à la fin de l'émission. Parce que ça va.
Oui, et même, ils peuvent contacter l'Union Pacifiste, dont je n'ai pas encore donné les coordonnées postales, la librairie Publico, où nos publications sont régulièrement exposées. Mais on fait ça à la fin de l'émission. J'avais une question à te poser, d'entrée de jeu, Olivier. Quelle a été ta première rencontre avec les idées de la paix dans ta vie?
J'ai essayé de m'engager pour la paix. Parce qu'en fait, j'écris des bouquins, mais les bouquins pour la paix, quand je les écris à titre militant et bénévole. Je le fais pour le mouvement de la paix, je le fais pas pour ramasser des sous. Raison de plus pour se les procurer. Ils en sont que meilleurs. puisqu'ils ont chauffé avec amour et bénévolat. Et donc, pour en revenir à ta question, en fait, c'est quand j'ai eu ma deuxième fille qui s'appelle Aurore. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai voulu m'engager pour quelque chose de fort, d'universel et de nécessaire, c'est-à-dire la paix. En fait, j'étais dans des engagements partisans avant et j'ai voulu passer à une autre étape de ma vie, à un engagement plus fort et puis qui mérite... qui, à l'époque, je pensais qu'il ne méritait pas de discussion, parce que je me suis dit, tout le monde est pour la paix. Mais en fait, beaucoup en parlent, mais peu la pratiquent. Alors, il y a notamment une personne assez connue en France, Emmanuel... comment il s'appelle ? Emmanuel Macron, je crois. Lui, il parle beaucoup de paix. Au mois de septembre, il a même fait un discours devant un parterre de religieux... personnes calottées et culottées. Et donc, il a fait un discours sur la paix, alors qu'en France, on n'a jamais autant dépensé pour la guerre.
Eh bien...
ça y est, on a dépassé les 50 milliards de budget militaire.
Olivier, je t'entends plus. Il y a un problème de réglage. Excuse-moi de t'interrompre. Je ne sais pas où tu en étais dans ton exposé. Nous allons passer...
Tu m'entends ?
Allô ?
Tu m'entends ?
Non, à peine. Donc, qu'on fasse ces réglages. Tu me parles, tu nous pardonnes. On va passer un morceau de musique et on va essayer de rendre ta voix plus audible pour moi. Merci.
Ben, ça roule.
Ah, ok, à toutes.
Ma femme, elle a une maladie, paraît que c'est une épidémie.
Ma femme, elle a une maladie, paraît que c'est une épidémie.
C'est pas une maladie honteuse, elle a seulement la fièvre acheteuse.
C'est pas une maladie honteuse, elle a seulement la fièvre acheteuse.
Tu guéris que la peste porcine, quand elle va faire du lèche-vitrine.
Tu guéris que la peste porcine, quand elle va faire du lèche-vitrine.
Elle va me donner un infractus. Tiré sur ma carte à puce.
Elle va me donner un infractus. Tiré sur ma carte à puce.
J'ai beau planquer ces catalogues, on dirait un archéologue.
J'ai beau planquer ces catalogues, on dirait un archéologue.
Elle serait capable de faire des fouilles pour un prospectus de la foire fouille.
Elle serait capable de faire des fouilles.
La redoute, il sait y faire, il lui souhaite son anniversaire.
À la redoute, il sait y faire, il lui souhaite son anniversaire.
Elle a une carte bienfaitrice, donnée par les gars des Trois Suisses.
Elle a une carte bienfaitrice, donnée par les gars des Trois Suisses.
Avec le stock dans la maison, je pourrais devenir chef de rayon.
Avec le stock dans la maison, je pourrais devenir chef de rayon.
Et même faire de la concurrence à la vente par correspondance.
Et même faire de la concurrence à la vente par correspondance.
Le factory vient en brouette pour nous bourrer la boîte à lettres.
Le factory vient en brouette pour nous bourrer la boîte à lettres.
Tirage au sort, bon de réduction, elle gagne tous les jours des millions.
Tirage au sort, bon de réduction, elle gagne tous les jours des millions.
beau dire j'ai rien à mettre, c'est pire que les galeries Lafayette.
Elle a beau dire j'ai rien à mettre, c'est pire que les galeries Lafayette.
Si tu verrais ses étagères, tu verrais une vente aux enchères.
Si tu verrais ses étagères,
refaire pareil comme les mannequins dans les vitrines des magasins.
Refaire pareil comme les mannequins dans les vitrines des magasins.
Il paraît pour qu'elle fait tendance, faut pas regarder à la dépense.
Il paraît pour qu'elle fait tendance, faut pas regarder à la dépense.
Des fois je prêche pour ma chapelle, qui est portée dessous en dentelle.
Des fois je prêche pour ma chapelle, qui est portée dessous en dentelle.
Si tu veux te rincer l'œil, t'as qu'à sortir ton portefeuille.
Et puis si tu veux te rincer l'œil, t'as qu'à sortir ton portefeuille.
Êtes-vous encore là, Olivier?
Ah, toujours là, toujours présent.
Ah, j'hésitais entre le vous et le toi et le tu, mais on va se tutoyer. C'est beaucoup mieux entre pacifistes.
Ah, complètement.
Et merci beaucoup à Pedro, il m'a arrangé le micro, maintenant je t'entends bien.
Parfait.
Est-ce que Pedro, tu entends bien aussi? C'est super. Alors, comment as-tu découvert... les idées de la paix et la connerie de la guerre, Olivier?
Moi je suis engagé au mouvement de la paix depuis 2017.
Ah oui.
Donc voilà, et c'était à l'occasion de la naissance de ma deuxième fille, Aurore.
Ah,
j'ai
oui.
voulu m'engager pour quelque chose d'universel.
Ah oui.
Oui.
C'était à l'occasion d'un événement particulier ou une manifestation? Ou une réunion.
C'était le congrès national du mouvement de la paix à Gennevilliers.
Ah oui, d'accord. Parce que souvent on reproche aux pacifistes de s'engager en politique. Parce que tu sais certainement que le pacifisme a de lointaines racines spirituelle et religieuse. Si on pense à Gandhi, par exemple, c'est relativement récent, mais il y a déjà des centaines, des milliers d'années, sans parler des paléo-chrétiens au cours des premiers siècles, qui étaient déjà contre la guerre, n'est-ce pas? Tu connais les belles devises. Qui combat par l'épée périra par l'épée. Mais
oui.
Même avant l'ère chrétienne, il y avait des grands philosophes, même chinois, qui plaidaient pour une guerre sans coup férir. Mais ils avaient encore en tête, quand même, la destruction de l'ennemi, mais sans se salir les mains. Aujourd'hui, nous avons fait des progrès parce que grâce à la naissance de l'ONU, il y a même pas 100 ans, en 1935, la Société des Nations a préfiguré l'ONU, qui est donc née avec ses statuts et sa magnifique charte, si malmenée aujourd'hui, en 1948. Que penses-tu de l'avenir de l'ONU, par exemple?
Ah, ben dans mon livre « Oser la paix », il y a un paragraphe sur les Nations Unies.
Voilà.
Un chapitre sur les Nations Unies.
Voilà, c'est au chapitre « L'humanité organisée pour la paix », absolument.
Ouais, c'est ça, les Nations Unies, l'humanité organisée pour la paix.
Voilà, et les impérialistes qui sont en lutte contre les Nations Unies.
Regardez ouais, ça c'est un petit passage anti-états-unien.
Oui, tout à fait.
C'est un bouquin très anti-états-unien. Alors, toutes les personnes qui sont anti-états-uniennes vont se délecter la lecture de ce livre.
Oui.
Il y a notamment le chapitre numéro 3, l'Empire états-unien, l'Empire du crime.
Absolument, absolument. Et encore, tout récemment, comme il y a en ce moment la lutte entre Trump et Kamala Harris pour la présidence, la prochaine présidence. Kamala Harris a eu ces mots qui m'ont beaucoup choquée. Évidemment, je traduis. Elle a dit l'Amérique est l'État qui a les armes les plus létales du monde. Létal veut dire destructeur, mortifère. Hey. Et elle s'en vante comme si ça pouvait être une gloire d'être un meurtrier, un assassin total. Tu vois, donc, si elle emploie ce type d'argument, c'est qu'elle pense, sans doute avec quelques raisons, que ce type d'argument a encore des échos dans les esprits non aguerris, si je puis dire, des Américains. D'ailleurs, le niveau éducatif en Amérique n'est pas le même qu'en France. Il est bien en dessous si on regarde la répartition des personnes qui accèdent ne serait-ce qu'à l'université. Ils sont bien moins nombreux en pourcentage qu'en Europe. En France, nous avons plus de 80% de la population générale qui accède au niveau bac. Et c'est beaucoup moins qu'en Allemagne encore. En Allemagne, c'est à peine 40%, c'est la moitié qui accède au niveau lycée. Mais justement, par là, je viens à ton chapitre numéro 5 qui est consacré à l'éducation et qui m'intéresse particulièrement, que tu intitules « Éduquer à un comportement, à une culture de paix ». Qu'est-ce qui te paraît très crucial et important actuellement pour nous en ce qui concerne notre système éducatif, Olivier ?
Le système éducatif, vaste question. Qu'est-ce que je peux dire ?
Tu dis au chapitre 3, excuse-moi juste pour t'aider, tu dis en France, l'État combat la culture de paix.
Ah oui, c'est là que je parle du service national universel.
Et ben voilà.
Ça, c'est la culture. C'est ce qu'on appelle au mouvement de la paix l'inculture de la guerre.
Absolument,
c'est le service national universel où on va enrégimenter les jeunes dans des activités stupides.
Absolument.
Avec des uniformes ridicules et de la mauvaise musique.
Et là, c'est la même tendance outre-Rhin et dans beaucoup d'autres pays européens, vu la situation. Toi, tu as dit, comment tu as appelé cette culture de la guerre ?
L'inculture de la guerre.
Eh bien, moi, je l'appellerais la Q-culture. C-U-L. La Q-culture de la guerre. Ce n'est pas une culture. La sécurité humaine, elle est une conquête culturelle. Mais pas du tout la culture dans la guerre. C'est une victoire pédagogique sur l'ignorance, une victoire psychologique sur la peur et sur l'impuissance. Rien à voir avec les armes et la culture de la guerre. Les armes et la guerre, au contraire, elles apportent justement le contraire. Comme tu dis, inculture, insécurité, peur, la mort, la destruction. Et le silence des cimetières. La paix des cimetières, ce n'est pas cette paix-là qui nous intéresse. En plus, la guerre, c'est archi facile. On casse tout. La paix, ce n'est pas archi facile. Elle ne tombe pas du ciel. C'est une quasi-acrobatie. Ça demande la guerre avec soi, avec nos pulsions archaïques qui sont très violentes. Ne nous voilons pas la face. On se dévoile la tête, mais pas la face. Pas besoin d'un gros cerveau pour taper sur le ciboulot de notre prochain. Pedro me fait signe. On va laisser respirer nos auditeurs. À tout à l'heure, Olivier, après la musique.
À tout à l'heure.
au revoir messieurs. Au revoir les jeunes et au revoir les vieux. J'espère que tout le monde s'est bien amusé, qu'on vous a fait un peu rigoler. Encore merci pour votre fidélité. Si vous êtes content, on est récompensé. Si vous voulez chanter nos chansons, venez au concert, c'est comme à la maison. Vous pourrez danser et remuer des giboles. Profitez-en, ça c'est du vrai music-hall. Si vous voulez qu'on fait plus culturel, on peut aussi vous faire les chipendelles. On va jamais dans les festivals, on doit nous prendre pour des anormales. Ça fait pas rien parce que nous on s'en fout. Nous autres on est bien quand on est avec vous. Quand on arrive avec nos gros sabots, ça fait pas bien pour les intellos. Il paraît qu'ils aiment pas nos manières, c'est pas branché de faire populaire. Ça leur fait mal à tous les tuciérés, qu'on les surprend en train de rigoler. Il y en a certains que ça rend allergique, qu'on fait un mélange Bretagne-Amérique. Si ça les dérange, nous ça nous amuse, mais de voir des Indiens jouer de la cornemuse. Chez eux c'est pareil, avec nos dégènes, ça les fait marrer qu'on joue de la flûte indienne. Dans nos chansons, on dit la vérité, sur les magouilles de la société. On fait pas pire que certains guignols, pour dire des conneries, on n'a pas le monopole. On enregistre des CD laser, qu'on vend dans des boîtes de diamants verts. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, du Gil Vinec jusqu'au Chalvados. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, pour faire la fête, y'a toujours les glauchos. Aucun problème pour aller jouer chez vous, prenez le bigophone et puis appelez-nous. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, du Gil Vinec jusqu'au Chalvados. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, pour faire la fête, il y a toujours les glauchos. Aucun problème pour aller jouer chez vous, prenez le bigophone et puis appelez-nous. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, du Gil Vinec jusqu'au Calvados. Tralalalé, nos, tralalalé, nos, pour faire la fête, il y a toujours les glauchos. Aucun problème pour aller jouer chez
vous. Oui, Olivier.
Oui.
Je voudrais te demander, est-ce que tu souhaites lire un ou des passages qui te tiennent particulièrement à cœur de tes ouvrages ? Comme tu nous fais l'honneur d'être là, ce serait pas bien que ce soit moi qui les lise.
Ouais, si tu veux, oui, je peux dire à la fin. J'ai une conclusion dans mon premier livre.
Je trouvais très beau l'entête du dernier chapitre, oser le courage de la paix, parce que souvent oui. Les pacifistes sont dénigrés, humiliés, on leur reproche une forme de lâcheté, ça a été le cas pendant la Deuxième et la Première Guerre mondiale. Or, oui. Il faut beaucoup de courage pour s'engager dans le chemin de la paix, comme disait Gandhi. Il n'y a pas de chemin armé vers la paix. La paix et le chemin. Et c'est beau ce chapitre que tu as intitulé ainsi, oser le courage de la paix.
La question de l'avenir de l'humanité est aujourd'hui posée.
Vas-y.
Les crises économiques, endémiques au système capitaliste, l'anarchie de la production industrielle, l'anarchie entre guillemets. Je suis sur Radio Libertaire, je précise.
C'est une antiphrase, absolument.
qui inondent les marchés de produits nuisibles, comme les armes, se doublent d'une crise écologique où c'est l'humanité en tant qu'espèce qui est menacée. Les guerres climatiques, ou pas encore, et la militarisation, seules solutions envisagées par les élites capitalistes, n'en sont pas. Au contraire, elles redoublent ces crises. Les centaines et centaines de milliards investis pour tuer ou pour fabriquer des engins de mort et de destruction, issus de choix politiques, ne sont pas nécessaires. Comme le précise le manifeste de Séville, la guerre n'est pas une fatalité de la nature humaine. Comme l'homme n'est pas né pour vivre assujetti à une monarchie absolue de droit divin, mais pour exercer sa liberté, sa souveraineté politique, sa rationalité, il n'est pas né pour faire la guerre à ses semblables. Contrairement à ce que nous vend le complexe militaro-industriel du divertissement, où les assassinats et les massacres sont légion, l'homme est né pour la paix et la collaboration. Le sens du progrès humain est celui d'une coopération toujours plus forte.
Absolument. On dirait que Jean Jaurès parle par ta bouche. Il avait dit « La paix est le plus grand des combats ». Et c'est en effet aussi très difficile. Capitulez, capitalistes, capitulez. Votre système ne respire que prédation, profit et communication affabuliste. Vos forces armées ne sont qu'une farce. Le mur d'argent et de bêtises dans vos têtes, une catastrophe complète. Vos forces de dissuasion aggravent la pollution. Votre pouvoir, votre puissance de frappe viennent d'une boutique de farces et attrapes. Certes, vous ne faites plus de déclarations de guerre, mais vous faites jeter les pauvres simplement à la mer. Vous recrutez vos bataillons parmi les pauvres et leur faites croire que manier des armes protège encore et vous donnerait de la distinction. Pour vendre vos systèmes d'attaque et de protection, vous attisez les peurs, la rage, la destruction. Vous semez le chaos, ruines et poussières, gravats. Et vous enseignez que tuer, c'est la gloire du combat, du soldat. Au lieu de vraiment éduquer, vous détruisez notre humanité. L'anti-soldat à venir saura mieux faire la différence entre une vraie force et le faux prestige de votre violence. Citoyens de l'avenir, citoyens du monde, instruits, matures, nous saurons construire un monde de paix, de liberté et de justice, un monde sans mur.
Oui.
On va encore écouter une chanson que nous prépare Pedro.
Les courants sont comme les vents. Ils nous sont parfois favorables, mais ils peuvent être changeants au point d'en être insupportables. Quand la bête immonde se relève encore, nos chants et nos luttes semblent bien pâles. Quand un peu partout on compte les morts, elle est passée où l'international ? Avec le web, le téléphone et l'avion, le libre-échange, la mondialisation, les mêmes séries, les mêmes musiques, les mêmes banques et les mêmes flics, les mêmes besoins de fric, de pognon. On nous pousse dans quelle direction? Tant que l'argent dictera le sens du vent, jusqu'au bout on restera à contre-courant.
Jamais découragé contre vents et marées,
le drapeau déployé,
sans patrie ni frontières, contre toutes les guerres et révolutionnaires.
Tu connais Robespierre. Entre les peuples, pas de guerre. Entre les classes, pas de paix.
Ce n'est pas qu'un slogan en l'air, c'est un parti pris. c'est pas décalé. Les deux pieds bien ancrés dans la réalité. On va rien lâcher.
Robespierre, abolition de l'esclavage, citoyenneté pour les Noirs, les Juifs et les comédiens.
Et que dansent les étoiles de l'international. On n'est pas des girouettes et qu'importe le vent. À contre-courant.
Des émigrants fuyant les guerres loin d'ici.
Les larmes de nos dirigeants engloutissent le droit d'asile. Un œil sur le cours du baril.
Et tombe, tombe, tombe les missiles sur les civils. Lutter pour l'égalité, ça c'est pas décalé. On va rien lâcher.
Courant. Les idées de paix, actuellement, sont à contre-courant. Olivier, dans ton ouvrage Écologie et paix, tu évoques le symbiocène. Je trouvais ça très stimulant comme formule. Peux-tu nous expliquer à nos auditeurs ce qu'il en est de cette formule du symbiocène?
Alors, le symbiocène, c'est un concept qui a été inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht. En fait, il a été forgé par l'étude des peuples aborigènes d'Australie. Parce que les peuples qu'on dit premiers, donc les peuples indigènes d'Australie, d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie.
Même d'Afrique, en fait, même d'Amérique du Nord.
Oui, d'Amérique du Nord, excuse-moi. En fait, ces peuples sont les peuples qu'on appelle gardiens de la forêt, gardiens de la biodiversité. C'est comme ça qu'ils ont été reconnus lors de la dernière conférence internationale sur la biodiversité. Et en fait, ce sont des peuples qui ont une relation symbiotique à leur environnement et à la nature. Et en fait, le capitalisme, l'extractivisme, les multinationales, les militaires, les milliardaires, toute cette racaille-là, en fait, viennent sur les territoires de ces peuples gardien de la biodiversité de la forêt, et puis détruisent le paysage, détruisent la nature, détruisent l'environnement pour le pognon, pour le fric.
Le gaz de schiste, l'uranium, etc.
Pour le pétrole, par exemple, chez les Yazuni en Équateur, c'est pour le pétrole. Mmh. Et donc, ils arrivent et détruisent tout. Et donc, ils entraînent un sentiment qui s'appelle la solastalgie, une forme de mélancolie de la perte d'une relation symbiotique avec la nature. Oh. Et en fait, à partir de cet exemple, des peuples premiers indigènes, et notamment du peuple aborigène de la Hunter Valley. En fait, c'est une vallée qui se trouve en Australie. Et là-bas vivaient des aborigènes. Et quand une des grosses multinationales australiennes, dont j'ai oublié le nom, c'est tout de même, est venue pour exploiter du charbon, ils ont détruit le paysage, la nature, les forêts, ils ont tout détruit pour faire des grandes mines de charbon à ciel ouvert. Et en fait, ces mines de charbon à ciel ouvert ont créé des pollutions énormes. Pollution de l'air, de l'eau, des ressources naturelles diverses et variées. Et puis, les aborigènes de ces régions n'ont plus reconnu leur cadre de vie, la nature, tout ce qu'ils avaient autour d'eux. Donc, ils ont éprouvé cette mélancolie de la nature. Et donc, à partir de cette idée-là, Glenn Albrecht, en fait, extrapole, universalise le concept d'une relation symbiotique avec la nature, la terre et les êtres vivants pour définir ce que doit être le nouvel âge de l'humanité que nous voulons, c'est-à-dire le symbiocène. En fait, le modèle, c'est la biologie. L'idée, c'est que en biologie, il y a de nombreux exemples de symbiose entre des animaux, des végétaux, c'est ce qu'on appelle un nouveau vivre ensemble avec la nature, des groupes humains entre eux, entre les peuples premiers, les peuples qui sont arrivés ensuite, de la coexistence pacifique avec tous les êtres vivants et surtout les autres groupes humains, le partage, la collaboration, les échanges mutuels, le symbiocène, c'est une ère qui sera caractérisée par l'intelligence la réplication de pratiques humaines répliquant elles-mêmes les formes et les processus symbiotiques de la nature se renforçant mutuellement pour reproduire la vie et les systèmes vivants sous toutes leurs formes. Voilà, c'est une sorte d'idéal, oui. D'idéal pour le 21e siècle, le symbiocène, et puis de transformation sociale, politique, économique, écologique. Voilà, pour constituer une société basée sur la symbiose et non sur la compétition. Donc une société sans capitalisme, sans capitaliste. Sans milliardaires et sans militaires.
Voilà, qui veut la paix, prépare la paix. Mais tu parles aussi à un autre endroit de cette célèbre devise philosophique de John Locke qui avait dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Et on trouve aussi cette guerre mais toute relative dans la nature, qui ne va pas jusqu'à l'autodestruction d'une même espèce à l'égard d'elle-même. Mais comment vois-tu cette perception de l'homme qui est son propre ennemi, s'il n'y prend garde ?
En fait, effectivement, c'est une pensée du XVIIe siècle. Oui. Et en fait, qui est contemporaine de l'émergence du capitalisme.
Ah ben voilà.
C'est la pensée du capitalisme en fait. Et en fait, au XVIIe siècle, donc l'émergence du capitalisme, c'est quoi ? C'est la destruction des communautés rurales, la déportation des paysans au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle d'Europe dans des bagnes qu'on appelle des fabriques ou des usines, ou dans des bagnes tout court, ce qui a valu d'ailleurs les colonies de peuplement d'Australie. La déportation massive des populations d'Europe, des populations paysannes vers les villes et vers les bagnes, mais aussi la déportation massive des populations africaines vers les Amériques, vers les îles de l'océan Indien. Le capitalisme, c'est la déportation, le génocide, les massacres. Dans les fabriques anglaises de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, l'espérance de vie, c'est 17 ans. Donc, l'extermination à une grande échelle. Et en fait, le capitalisme, c'est à la fois l'extractivisme, donc l'extraction des ressources naturelles jusqu'à épuisement total de ces ressources et puis de leur capacité à se régénérer et de la vie et de la terre elle-même, mais aussi l'extractivisme et son pendant, l'exterminisme. Donc une conception philosophique, politique, économique de la société qui va vers l'extermination. Et donc le paroxysme du capitalisme, c'est le génocide.
Mais certains historiens avaient même émis l'hypothèse que la Première Guerre mondiale et les affreux massacres dans les tranchées auraient bien rendu service à l'essor des grands groupes industriels qui avaient remplacé de plus en plus les bras humains par des machines. De même, des millions d'Européens au chômage ont quitté l'Europe à la fin du 19e siècle pour les États-Unis dans l'espoir de trouver de quoi survivre. C'est certainement en relation avec ce que tu viens de décrire.
Oui, on est toujours dans la déportation massive de population. Le génocide, c'est aussi la destruction des populations aborigènes, indigènes.
Et leurs propres.
Des peuples premiers, quoi.
Oui, et même leur propre population, c'est-à-dire le patriotisme, c'est vraiment un patriotisme de pacotille. Les dirigeants, les oligarchies sont ennemis de leur propre classe laborieuse qu'elles sacrifient sans sourciller.
Oui,
voilà. Pour s'en débarrasser, en fait.
Effectivement, mais c'est le propre des guerres. C'est en cela que les guerres sont aussi l'expression paroxystique du capitalisme. Les guerres, ce sont des massacres et des déplacements énormes de population, déportation et génocide, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, déportation et génocide, c'est ce qui se passe à Gaza actuellement. Déportation et génocide maintenant aussi au Liban. Déportation, génocide, massacre de masse en Ukraine.
Et voilà.
Donc, en République démocratique du Congo. C'est le propre des guerres, du système capitaliste. Et puis, ce qui est important dans la société du spectacle et de la consommation, c'est que le complexe, c'est une terminologie que j'aime bien employer, le complexe militaro-industriel, se développe. Donc il y a une de ces tentacules, qui est la partie divertissement. Donc c'est le complexe militaro-industriel devient le complexe militaro-industriel du divertissement.
Ah, c'est intéressant, la culture du plaisir.
C'est le cinéma hollywoodien où des milliers de productions sont directement financées par le complexe militaro-industriel des États-Unis. La surreprésentation de la violence, de la mort violente, des massacres sur les écrans divers et variés, l'omniprésence du meurtre, du massacre. Et puis, la justification répétée et absolue des différentes formes de guerre.
Oui, la guerre est présentée comme un processus jouissif et donc qui est désirable pour le peuple à travers toutes ces productions pseudo-culturelles que tu viens de décrire. Et la jeunesse, malheureusement, elle se laisse berner et bercer. Et je pense même, et je crois que je ne suis pas la seule, que la guerre qu'on fait à la drogue officiellement, ça peut arranger aussi certains oligarques, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais les profiteurs de cette situation du divertissement, de laisser la jeunesse s'étioler, s'abîmer, se suicider avec la drogue. Si la jeunesse prenait conscience que la drogue rend la tâche facile aux profiteurs, aux prédateurs, aux exploiteurs. Ils ne veulent pas une jeunesse en bonne santé et qui ait toute sa tête. Si elle fait mine, cette oligarchie, de combattre la drogue, d'un autre côté, elle est contente que la drogue détruise la jeunesse. Si la jeunesse pouvait en prendre conscience, on ouvrira un nouveau chemin vers la paix.
De toute façon, pour le système capitaliste, toutes les sources de profit et de pognon, de fric, voilà. Et donc, il y a toujours moyen de s'en sortir pour les milliardaires, en fait.
Et à double langage. Un double langage. D'un côté, les armées veulent nous protéger. Elles parlent de sécurité, de protection. Ça semble logique et raisonnable. Mais en fait, les armées menacent aussi leur propre population à cause de la modernité extraordinaire de notre technologie. Déjà à la fabrication, par exemple, de missiles nucléaires, il y a des ouvriers qui attrapent des maladies. Il n'y a pas que les victimes des armes nucléaires lorsqu'elles sont lancées et lorsqu'elles explosent. Elles font déjà des victimes depuis l'extraction que tu viens de mentionner, jusqu'à la fabrication. On n'en parle évidemment jamais des victimes des armes à la production.
Évidemment. C'est et puis, les armes nucléaires font des victimes militaires, en tout cas, ils en ont fait, lors des essais en plein air, lors des différentes explosions qui ont été engendrées. On a réussi à, grâce aux mobilisations pacifistes, on a réussi à limiter les explosions nucléaires, les essais nucléaires et toutes ces grandes sources de pollution. Mais elles ont fait des milliers, des centaines de milliers de morts et de victimes.
Eh oui, la guerre crée plus de méchants qu'elle n'en supprime. C'était un billet d'un philosophe, Emmanuel Kant. Et Alain, le philosophe français, a dit « Qui veut la guerre est en guerre avec lui-même. Les généraux triomphent et les soldats tombent. Quand les éléphants se battent, qui c'est qui meurt? Ce sont les fourmis qui meurent. La guerre apprend à tout perdre et à devenir ce qu'on n'était pas. » Cette dernière phrase, la guerre apprend à tout perdre et à devenir ce qu'on n'était pas, c'est de Albert Camus. Il y a aussi Alain qui disait, il ne faut jamais laisser entendre ni permettre de croire que la guerre soit compatible en un sens quelconque avec la justice et la notion d'humanité. Parole d'Alain. J'en ai encore plusieurs autres de grands penseurs. Fénelon, au XVIIe, il avait dit « La guerre est quelquefois nécessaire, il est vrai, mais c'est la honte du genre humain qu'elle soit inévitable en certaines occasions. » C'est dingue. On va faire une pause pour reprendre nos énergies et on parlera de ce ce qui te paraît urgent, Olivier. À tout à l'heure.
Oui.
Attention, ils arrivent, attention, les voilà. Ils arrivent au village avec leur caravane qu'ils appellent des verdines. Autrefois, ces verdines étaient tractées par des grailles, des chevaux. Le chef de famille va tout de suite à la mairie, à la raille, pour demander le condé. Et le condé, c'est l'autorisation de jouer. Et jouer pour qui? Pour vous, les sédentaires, les gadgets. Allez, venez, chacun avec votre enfant, votre chabot. Un chabot qui, en voyant le cirque, va ouvrir des gouglis, des yeux, mais grands comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles viennent jouer? Mais pour gagner des sous, des lovés, des lovés, des lovés. Allez, attention, ils arrivent, attention, les voilà. On a eu le condé pour 3 jours d'affilée. Pour une fois la raille, accepter tous nos grailles sur la place du marché, sans prendre de lovés. On joue sans chapiteau, en palque au bord de l'eau. Et voilà les chabots qui arrivent en maillot, ouvrant grand leur gouglis. Nous sommes des Romanis, des Romanis, des Romanis. Aïe, 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 aïe. Un gadjo me reluque, attifé comme un duc. Il applaudit trop fort à mes sauts de la mort. Le regard insistant, lourd comme un éléphant. Ce gadjo de malheur veut chouraver mon cœur. Mais rakachis se route, car pour moi pas de doute. Aux amours compliqués, je préfère ma liberté. Ma liberté, ma liberté. Moi je suis voyageuse et sa vie souffreteuse dans des cages à lapins qu'il la garde pour les siens. Je préfère ma verdine, elle ne paye pas de mine, mais moi je m'y sens bien. Demain on sera loin, ce gadjo de malheur ira chercher ailleurs. Moi je garde ma vie de Romanie, de Romanie.
Touche à la guerre est une gifle au bon sens. Celui qui a vaincu par la force n'a qu'à moitié vaincu son ennemi. La guerre arrivée, le diable a grandi son enfer. Voilà, nous sommes pour la raison qui doit se développer dans nos têtes et dans notre cerveau préfrontal et pas dans les têtes nucléaires. Olivier.
Oui.
Quel est le meilleur moyen de commencer à inverser la vapeur?
Le deuxième bouquin, Écologie et paix, c'est un bouquin que j'ai fait pour mettre en lumière l'engagement d'un ami du mouvement de la paix qui s'appelle David Ligoui.
Voilà.
Et en fait, David a parcouru la planète.
Oui.
La planète Terre, la planète bleue. Et il l'a parcouru avec, alors parfois sans, parfois avec un vélo à assistance électrique solaire.
Oui.
Et donc, il a notamment traversé l'Amérique du sud au nord par des dizaines de milliers de kilomètres.
Oui.
Et pour rencontrer les populations des différents pays du monde. Et puis, les rencontrer, les connaître. Et puis, grâce à cette expérience... Ça fait un livre, Écologie et paix, ça s'appelle « Pour sauver notre terre, arrêter les guerres », un livre qui est actuellement disponible sur le site du Mouvement de la paix.
Et en fait,
ce livre, il parle de cet engagement de David, et à partir de l'engagement de David, il tire des conclusions sur la nécessité de développer la paix pour sauver la terre et arrêter les guerres. Et développer la paix aussi dans une perspective de développer l'écologie. En fait, on entend ici ou là des responsables qui se disent de l'écologie, qui nous expliquent, par exemple, qu'il faut envoyer plus d'armes en Ukraine.
Voilà.
Qui nous expliquent qu'il faut investir plus dans le développement des industries militaires.
C'est ça.
Et en fait, ces gens-là sont des mystificateurs. Parce que la production militaire, déjà, c'est une production extrêmement polluante. C'est une production qui nécessite de la haute technologie, donc des terres rares, voilà. de l'extractivisme forcené.
Oui.
La destruction de zones, je veux dire, naturelles entières. Pour pouvoir obtenir des matériaux rares nécessaires à la haute technologie militaire. Et donc, c'est une industrie très polluante. Mais en plus d'être très polluante, c'est une industrie qui est complètement nuisible. Parce qu'en fait, on ne fait pas des armes pour répondre à un besoin humain.
On n'éteint pas un incendie avec des lance-flammes ?
Non. Donc, on ne produit pas des armes pour répondre à un besoin humain. On ne dit pas sur la production militaire, c'est pas l'agriculture. Dire la nourriture, c'est un besoin humain fondamental, comme le fait de se vêtir ou le fait de loger quelque part. Il n'y a pas de nécessité à avoir de plus en plus d'armes. Voilà. Il y a des pays au monde où il y a plein d'armes parce que ce sont des pays militaristes et les domaines des marchands d'armes comme par exemple aux États-Unis d'Amérique où plus de 10 000 personnes meurent chaque année de mort par arme à feu.
Oui.
Et puis il y a d'autres pays, bon, en France il y en a beaucoup moins, donc on utilise des armes à feu pour certains pour chasser ou pour avoir des activités de ce type, mais en fait, le fait de posséder une arme n'est absolument pas une nécessité humaine.
Non.
Il n'y a aucun besoin qui nous pousse à avoir des armes.
En tout cas, pas des armes qui permettent de tuer et de détruire la vie de quelqu'un d'autre.
Et donc, l'industrie militaire est donc extrêmement nuisible.
Oui.
Et en fait, elle est d'autant plus nuisible que, en fait, c'est une, comme disait un auteur, Jean Guinel, c'est une arme de destruction, de corruption massive. Destruction massive, ça c'est sûr, avec les armes nucléaires, avec les armes qui sont utilisées à Gaza actuellement, qui détruisent, qui rasent les villes entières. Mais c'est aussi une arme de corruption massive. L'industrie de l'armement, c'est une industrie qui se fait... C'est un commerce qui se pratique au niveau des États, des grands groupes capitalistes, parce qu'il faut beaucoup de pognon pour investir dans l'armement. Et après, les grands groupes capitalistes ramassent beaucoup de pognon aussi, par la mort et la destruction. Et donc, ces rapports entre ces grandes industries, ces multinationales de l'armement et les États, les gouvernements, créent des situations de corruption massive, dont on a de multiples exemples, les attentats à Karachi, par exemple, pour des histoires de frégates vendues à Taïwan et après...
Ça fait un bail déjà.
Voilà, de la corruption massive qui sert à financer des campagnes électorales, ce qu'on appelle les commissions, les rétro-commissions. C'est un commerce qui est extrêmement corrupteur, le commerce des armes.
J'ai une question, justement, à ce propos, oui. Olivier. Penses-tu que si on nationalisait tout ce qui touche à l'armement, ça pourrait endiguer la corruption, parce que là, il y a en fait une délocalisation interne vers le, de plus en plus d'usines privées, vers le privé de la fabrication d'armes, et ça peut être une tentation plus facile de se corrompre et de se laisser corrompre.
Mais en fait, le problème, c'est faire des armes, pourquoi faire, quoi ? Et surtout en vendre, à qui et pourquoi faire ? Alors j'aime bien cette phrase d'Hervé Morin, qui était ministre de la Défense en 2010, et qui disait « Si la France ne vend pas ses armes aux pires dictatures du monde, à qui va-t-elle les vendre ?» Parce que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à l'Égypte du maréchal Al-Sissi. Et donc la France, voici ses clients en termes d'armes et en termes militaires. Le commerce des armes n'a pas lieu d'être. Le commerce des armes, voilà.
Et la France n'est pas seule. La France n'est pas seule. D'autres, dont nos voisins outre-Rhin, ils fabriquent en Afrique du Sud. Mais c'est privé.
Ouais. Alors la France n'est pas seule, effectivement, mais la France est sur le podium. La France est deuxième producteur-exportateur d'armes au monde. Oui. Et donc, voilà, alors ce qui est une fierté pour ceux qui n'ont en fait aucune honte, mais voilà, elle est deuxième producteur-exportateur d'armes, ce qui est une honte absolue pour notre pays.
Après les États-Unis. Est-ce que tu penses que ce serait le résultat d'une forme d'inefficacité de notre système éducatif qui n'arrive pas encore à vacciner moralement, si je peux dire, la jeunesse contre la corruption? Parce que la corruption, sur le plan moral, c'est une défaillance, une déficience du raisonnement, une déficience de l'intelligence.
Ah ben complètement, je veux dire, le militarisme, l'éducation militaire, c'est une forme de corruption des esprits. Mais en fait, moi, disons, ce qui me préoccupe vraiment, c'est la conception au niveau social, sociétal, c'est le lien entre le militarisme et le patriarcat. En fait, le militarisme, la culture de la guerre, la production, la vente d'armes et toutes ces choses qui sont horribles, comme on vient de dire, sont extrêmement liées avec le patriarcat. En fait, moi, je suis né dans un hôpital, mais j'ai passé mon enfance dans un village, c'est un très beau village de France, qui s'appelle Belherbe, dans le Haut-Doubs, donc dans le département du Doubs, en Franche-Comté. Et en fait, donc dans ce village, il y a un monument aux morts de 14-18. Alors, ce n'est pas un monument aux morts pacifiste comme à Jansiou. Mmh. Ce n'est pas un Jansiou de la Creuse. Ce n'est pas un enfant qui dresse un poing rageur contre
la guerre,
et qui dit... donc, il y a cette phrase sur ce monument aux morts, « Maudites soient les guerres ». Et donc, non, ce n'est absolument pas un monument aux morts pacifiste. En fait, c'est un monument qui mêle des symboles religieux, militaristes et phalliques. Et donc, à chaque extrémité d'une sorte de quadrilatère, vous avez des sortes de grosses pierres en forme de gland. Voilà. Au-dessus, vous avez une grosse épée phallique qui est tenue par une sorte de d'ange exterminateur de Saint-Michel. Ensuite, vous avez un soldat qui tient dans la main un fusil qui a aussi une forme phallique, voilà, évidente. Et puis, surtout, sur ces monuments militaires, vous avez toujours une sorte d'obélisque qui est aussi une forme phallique. Donc, on a à la fois des habits, puis il y a une croix énorme aussi. Hein. D'ailleurs, la croix qui est l'intersection de deux objets phalliques aussi. Et donc, voilà, on a une conjonction d'éléments religieux,
de la culture chrétienne catholique, militariste et patriarcophalique. Oh. Et le militarisme, le patriarcat, c'est quelque chose qui est extrêmement lié, disons. C'est une manière de concevoir le rapport entre les personnes, entre les gens, qui est basé sur la domination, la soumission, la violence, et donc sur des valeurs patriarcales, quoi.
Oui, voilà. Ça m'a fait sourire à un moment donné lorsque, en effet, tu développais les différentes formes du phallique de la ligne droite. Pour un psychanalyste, ça pourrait être compris comme un fantasme, voire dans toute ligne droite, un phallus, il faut le faire. Mais évidemment, dans ce type d'argumentation contre la guerre, ça se pardonne et ça se comprend. Et je voulais revenir à un chapitre dans ton livre « Écologie et paix »
oui.
que tu as déjà évoqué lors du voyage en Amérique du Sud de David,
oui.
et notamment son expérience au Costa Rica, qui est un pays tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas ?
Ah oui, oui, oui. Le Costa Rica, c'est un pays intéressant pour tout libertaire, pour tout anarchiste, radicalement pacifiste et contre les organisations armées. Militaires,
formidable.
Contre les armées.
Formidable, bravo le Costa Rica.
En fait, le Costa Rica, c'est un pays de 4 millions d'habitants, je crois, à peu près 4 millions d'habitants. Et en fait, en 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu des troubles importants, une sorte de guerre civile. Et puis c'est un général qui est arrivé au pouvoir, qui est devenu président. Et le général fait un discours retentissant où il a exprimé l'idée... donc on peut le croire en tant que général, de dire que l'armée, ça ne servait à rien.
Ben c'est presque un général de Gaulle qui a salué le combat de Louis Lecoing, qui était aussi un grand militant contre les armées, et Charles de Gaulle a acquiescé. Et il a inscrit dans la Constitution française le droit de remplacer le service militaire que l'on refusait par un service civil.
Alors, sauf que notre général costaricain, lui, il est allé jusqu'au bout de son raisonnement que l'armée n'avait aucun intérêt.
Bravo.
Et donc il a supprimé l'armée et donc les dépenses militaires. Bon, bien sûr, il y a quand même des corps en uniforme, il y a des gardes-côtes, des policiers, mais il n'y a pas de militaires en fait.
Ah, c'est super.
Et donc en fait, l'argent de l'armée, l'argent qui est dépensé, qui est jeté par les fenêtres pour financer des objets inutiles et nuisibles.
Pour enrichir les profiteurs de guerre.
Exactement. Ah. Donc cet argent-là, au Costa Rica, est investi dans l'éducation.
Il faudrait qu'on y aille une fois. J'aimerais bien y aller. Ça me donne envie d'y aller.
Dans l'éducation, dans la santé.
Oui.
Et puis, plus tard, dans l'écologie. Donc, le Costa Rica a eu une politique très importante de protection de la nature. Un quart du territoire du Costa Rica, ce sont des parcs naturels protégés. Et puis, dans la dernière période, un développement accéléré des énergies décarbonées, renouvelables. Alors, quand je dis décarbonées, renouvelables, évidemment, ils n'ont pas de centrale nucléaire chez eux parce qu'ils en ont absolument pas besoin. Ils ont du solaire, de l'éolien, de la géothermie, et voilà. Et avec tout ça, ils sont quasiment totalement passés à des énergies renouvelables. Et donc, ils ont même une situation où ils ont tellement d'électricité renouvelable qu'ils investissent dans les voitures électriques pour pouvoir utiliser cette énergie électrique qu'ils produisent à foison de manière renouvelable. Et donc, ça, c'est le Costa Rica. Au Costa Rica aussi, il y a ce qu'on appelle l'Université de la Paix.
Voilà, j'allais t'interroger là-dessus. Formidable.
Et en fait, l'Université de la Paix, dont le mot d'ordre est « Si tu veux la paix,
prépare la paix.
Évidemment. Et donc, qui est le titre de ton émission. Et donc, David y est allé, il a été vraiment très, très étonné de voir à quel point on avait développé la culture de la paix au Costa Rica. Donc, c'est un pays, en fait, où il y a beaucoup moins de troubles sociaux, beaucoup moins de délinquance que dans d'autres pays. Alors, c'est sûr qu'ils ont, aussi... les militaristes m'expliquent toujours... Alors le Costa Rica n'a pas d'armée, mais il a des accords militaires avec les États-Unis.
Voilà.
Alors, ce à quoi je réponds, oui, le Costa Rica a des accords avec les États-Unis, mais comme tous les autres pays d'Amérique centrale qui ont une armée. Voilà. Parce que, en fait, le principal danger militaire en Amérique centrale, ce sont évidemment les États-Unis. 1980, invasion de la Grenade, qui avait une armée. 1988, invasion du Panama, qui avait aussi une armée.
C'est vrai.
Et en fait, le fait d'avoir une armée ne te prémunit pas d'être envahi quand tu es un petit pays par l'État le plus dangereux de la planète que sont les États-Unis d'Amérique.
Tout à fait. Et dans le même chapitre, tu parles aussi des médecins de Cuba. C'est formidable. Peux-tu nous en dire un mot?
En fait, les Cubains, bon, eux, ils ont une armée, mais c'est pas une armée dans laquelle ils investissent vraiment, beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup moins que leurs voisins et ennemis, les États-Unis, qui leur font la guerre, d'ailleurs. Les États-Unis qui font la guerre à Cuba via le blocus, c'est une guerre économique, assassine. Qui détruit des vies, dégrade les conditions de vie des Cubains. Donc c'est vraiment scandaleux, cette forme de guerre. Actuellement, 40% de la population mondiale vit sous ce régime de guerre économique qui est organisé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Donc c'est une grande partie de la population mondiale qui vit sous cette guerre économique. C'est vraiment très notable, il faut absolument le dénoncer. Et en fait, à Cuba, eux, malgré le blocus, malgré une situation difficile, alors Cuba, bon, c'est ce que je mets dans le bouquin, j'en parle à différents moments, j'en parle pour la question des médecins, effectivement, les Cubains, comme les Costa Ricains, en fait, ont investi dans la santé, et donc, ils ont formé des milliers de médecins à Cuba et aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et en fait, les médecins cubains interviennent partout sur la planète. Alors, quand les médecins cubains interviennent au Qatar, eh ben, les Qataris payent pour l'intervention des médecins cubains. Donc, c'est une source de financement pour l'État cubain qui est intéressante. Mais quand les médecins cubains interviennent en Afrique de l'Ouest pour juguler l'épidémie d'Ebola, parce qu'en fait, on leur doit le succès contre l'épidémie d'Ebola au milieu des années 2010, et ben quand ils interviennent là, les médecins cubains le font à titre de la fraternité internationaliste. Super. Et du sauvetage des populations civiles.
Super.
Et puis, oui, excuse-moi. Et non, puis, là aussi où je parle de Cuba dans le bouquin, c'est sur la question de l'agroécologie, parce que les Cubains sont les champions mondiaux de l'agroécologie et d'une agriculture sans pesticides et sans produits chimiques.
Voilà. Il faut lire ton livre « Écologie et paix » pour sauver notre terre. Arrêtez les guerres. Pierre-Olivier Poyard, entretien avec David Ligouille. Nous devons maintenant faire connaître encore à nos auditeurs quelques informations de l'Union pacifiste, et parce que l'émission touche à sa fin. Olivier, je te remercie infiniment pour la participation si éclairante à notre émission. Et c'est à Pedro.
Oui, nous, je vais vous parler de quelques événements qui s'approchent pour l'Union pacifiste, notamment le prochain samedi et dimanche. Il y aura, comme traditionnellement nous le faisons souvent, les portes ouvertes des ateliers des artistes de Montreuil, notamment à Couleur d'Orange, au 9 rue Barbès, à Montreuil. Donc ça commence de 14h à 20h, le samedi et le dimanche. Il y aura des tableaux pacifistes en vente, d'autres ouvrages, de concerts. Voilà, ce sera un moment de partage, de discussion, de rencontre entre artistes et aussi des militants pacifistes. Un autre événement très important qui aura lieu à Saint-Junien bientôt, du 12 au 27 octobre. Ça commence ce week-end et ça se prolongera jusqu'au 27 octobre. Donc Saint-Junien et Rochechouart, dans la région de Limoges, c'est un festival qui s'intitule « Foutez-nous la paix ». Donc c'est un festival qui regroupe pas mal d'événements. Il y aura du cinéma, des concerts, des débats, discussions, expositions. Je vais rapidement lire la présentation de l'édito qui a été fait par le festival, que certainement va intéresser nos éditrices et auditeurs. Donc la paix est sans doute le bien le plus précieux de l'humanité, mais elle implique une notion complexe, le respect de l'autre et de sa culture, et une condition importante, que la majorité est tolérée des minorités. Très vieille question qui se pose à nous, tout comme l'est la relation entre nomades et sédentaires. Dans un monde qui n'a jamais été autant urbanisé, dépendant des ressources limitées de la planète et dans un contexte de changement climatique, être un nomade est un acte de résistance. Cette année, le festival Foutez-nous la paix s'intéresse aux Zimbas de Namibie, aux Sahraouis et d'autres peuples de par le monde. Et en France hexagonale, être nomade, c'est se voir à côté l'étiquette gens du voyage, malgré la diversité des populations et leur rapport à la route et à leurs racines multiples. Nous essayerons, comme tant d'autres avant nous, de démonter les clichés et de rendre compte de leurs conditions de vie, de leur histoire, alors qu'ils affrontent toujours la méfiance de l'État, le prix de la liberté. La liberté, la paix. Les Portugais et les peuples colonisés par Lisbonne les ont retrouvés en 1974 à la suite d'un coup d'État mené par des jeunes militaires mettant fin à 48 ans de dictature. Notre traditionnel salon de la paix sera l'occasion de mettre en lumière l'handicap international et son cofondateur Jean-Baptiste Richardier, prix Nobel de la paix en 1997, mais aussi le Fonds mondial actif contre les violences sexuelles en temps de guerre. Comme chaque édition, le programme est varié entre films, débats, concerts, spectacles, expos, ateliers ou balades grâce à nos invités, nos précieux bénévoles et le soutien de nos partenaires, dont l'Union pacifiste bien entendu. De quoi entretenir au mieux la petite flamme de la paix qui n'a pas bénéficié de la trêve olympique et qu'on voit peu briller dans les médias. À Saint-Junien, pendant 15 jours, notamment le 12 octobre à l'occasion du Forum pour la paix, avec les associations de la ville, elle sera un petit point sur la planète. Elle éclairera les visages, et si tu souris, c'est moitié pour ton visage, moitié pour celui d'autrui. La paix, c'est comme un sourire, selon Épicure, les philosophes grecs. Donc voilà, le festival Foutez-nous la paix, qui fait cette année un axe spécial sur le Portugal, les 50 ans de la Révolution des œillets, avec beaucoup d'expositions, plusieurs expositions, beaucoup de films, des spectacles. Il y aura des concerts de Imaram et aussi de Marco Oliveira, qui est un chanteur de fado engagé, qui vient du Portugal exprès pour ce concert. Et voilà, rendez-vous à Saint-Junien du 12 au 27 octobre. À ne pas rater. Dernière petite information, pour Sivi Passem, notre émission de l'Union Pacifiste est toujours à 18h ici sur Radio Libertaire. Et comme vous le savez, le journal Union Pacifiste est toujours disponible. Il suffit juste d'écrire à l'Union Pacifiste au 66 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e à Paris, ou bien envoyer un mail à unionpacifiste@riseup.net. Vous pouvez aussi adhérer ou abonner à l'association et soutenir le mouvement de pacifisme intégral qui est unique en France et dans le monde.
Et nous avons aussi nos publications à la librairie Publico au 147 rue Amelot, près de la place de la République. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Pedro. Mille merci à Pierre-Olivier Poyard. Et à bientôt.
Merci, au revoir.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal.
l'amour. Oublie la journée d'hier. Il nous a échappé des mots secs et durs qui ne veulent rien dire parce que ce n'est pas nous qu'ils visent, mais nos démons intérieurs qui n'arrêtent pas de surgir. Tu me manques. Comment s'en sortir? Ma vie se passerait à te coller au flanc, à sentir ta peau, à se faire l'amour au plus chaud de nous jusqu'à en mourir, ce serait bien. Mais voilà, on n'en meurt pas. Et je veux tout en même temps, comme toi. Nous avons souvent les mêmes goûts, mais pas toujours au même rythme. Et tes exigences, plus les miennes, c'est lourd. Quelle chance tu as de ne voir que les deux ou trois choses qui te sont essentielles. Moi, j'ai des yeux tout le tour de la tête. Tu me manques. Reviens quand même, je m'achèterai un loup. Mm-hmm.